Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Alors, notre invité du jeudi aujourd'hui, sera un auteur. C'est Christian Vial, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Fuir les chemins perdus aux éditions de Boré. Eh bien, dans quelques instants, on va parler avec lui de son dernier roman, qui est le deuxième. Il nous parlera un petit peu du premier également. And he shows them a pearly white, just a jackknife has back heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mackie, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, baby, lies a body oozing light. Voilà, eh bien, tout de suite, on va rencontrer Christian Vial, qui va nous parler de ce livre. Christian, tout d'abord, bonjour. Attends, prends bien ce micro. Bienvenue. Alors, c'est vrai que je ne me rappelle plus, mais c'est vrai qu'on a fait le premier livre, mais comme tu me disais, c'est pendant le confinement, donc c'est sorti un peu de mon esprit. Alors, ton premier livre, c'était Le jeu de grâce.
Le jeu de grâce, oui.
Alors, ça parlait de quoi, déjà, en grâce, quelques mots?
Oui, c'était autour de l'abandon, la thématique de l'abandon, l'histoire d'une femme abandonnée en 1913. Et après, c'est le parcours de cette femme sur pratiquement un siècle, hein, sur le XXe siècle, sa traversée. C'était comment, à partir avec une naissance comme celle-là, comment on pouvait quand même vivre, hein, peut-être c'est la résilience. Hein. Alors l'histoire de cette femme, c'était aussi l'histoire de ma mère. Voilà.
Ah d'accord, c'est un peu, oui. Donc c'est l'histoire de la maman.
Oui, voilà.
Alors le deuxième, ça change un petit peu, hein, parce que... Donc, il faut dire que toi, tu es né à Clermont-Ferrand. Donc, tu disais que tu étais éducateur spécialisé. Tu as été directeur adjoint d'un institut médico-éducatif. Toujours un petit peu quand même dans le... C'est un peu le même, la même chose.
Secteur, hein. Bien sûr.
Même secteur, oui. Mmh. Alors, on va parler de... y a toujours un peu dans ces livres quelqu'un qui découvre quelque chose et ça change sa vie un peu. Alors, toi, tu dis... Raphaël, 40 ans, s'installe dans une grande ville qu'il ne connaît pas. Il a laissé derrière lui sa famille, ses amis, sa compagne, sa parenthèse ou échappatoire. Lui-même n'en sait rien. Donc il s'éloigne de cette route toute tracée qui devait être son existence. Il prend le temps de s'interroger. Que fut-il? Qui est-il vraiment? Et là, c'est là qu'il tombe sur les carnets de son grand-père, Félix. Et là, ça va changer totalement sa vie. Alors, c'est sorti de ton imagination ou si c'est quelque chose qui a été vécu?
De mon imagination, de mon inconscient, je ne sais pas comment l'histoire est venue, mais
oui.
elle s'est imposée.
Hein. D'accord.
Elle s'est imposée à moi. J'avais pas du tout l'idée d'écrire un livre comme ça. Je suis parti, voilà, j'ai laissé aller. On va dire la plume, c'est l'ordinateur.
Oui.
j'ai laissé aller les choses et je suis parti sur cette histoire-là. Un gars qui abandonne tout, il ne sait pas trop pourquoi, il n'a pas d'horizon, il n'a pas de perspective, mais il sait qu'il faut qu'il parte, c'est impérieux, ça s'impose à lui.
D'accord.
Ça s'impose à lui et il va se poser dans une grande ville et il va observer les gens autour de lui, il va rencontrer deux femmes et il a l'impression que... qu'elles aussi sont en train de fuir. Et il voit tout par cette focale-là. Il a l'impression que tout le monde est en train de fuir, y compris dans sa propre famille. Il observe les gens. Et puis un jour, il découvre ce que tu disais, les carnets d'un grand-père. Et il va découvrir la vie de cet homme qu'il a très peu connu et de sa grand-mère, une grand-mère audacieuse, et ce grand-père qui a fait une fuite terrifiante et bouleversante. Et ça va le décentrer de ses propres questionnements. Il s'interroge plus sur sa propre fuite. Il essaye de comprendre cette fuite du grand-père. Enfin, je ne vais pas en dire plus.
Non, faut pas trop.
Mais en cherchant à comprendre, ce qu'il va comprendre, c'est qu'on n'arrivera jamais à savoir pourquoi quelqu'un fuit. C'est une raison intérieure que la personne ne sait pas forcément elle-même, quoi. Mais lui, ça va lui permettre de retrouver son chemin. En regardant le chemin des autres, notamment celui de son grand-père,
il va retrouver son propre chemin.
D'accord, oui, parce qu'il n'était pas du tout parti là-dessus. Il avait une vie normale, on va dire. Enfin, là, bon, une vie comme on vit.
Oui,
hein.
Une vie, un travail, une compagne, ça allait bien. Pas de questions à se poser. Mais justement, c'est peut-être ça, les chemins perdus, les chemins dans lesquels on peut se perdre, les chemins du quotidien, de la banalité, de la perte de sens. Et quelque chose d'intérieur l'a poussé à partir et il a bien fait.
Donc tout au long du livre, on va voir Raphaël qui fuir les chemins perdus, mais qui va fuir d'une manière, mais quand même, ça va changer sa vie. Ouais, il faut dire que ça va quand même changer sa vie parce qu'il s'attendait peut-être pas à découvrir des choses comme il va découvrir.
Ça va changer sa vie, mais il ne sait pas encore comment. Mais à un moment, ouais, il se dit, oui, ma vie, le livre ne le dit pas. Ça, et il va partir sur autre chose. Mais il sait qu'il a découvert ce qu'il avait à découvrir. Ou même s'il n'a pas compris, c'était beaucoup plus des questions que des réponses. Mais en se posant les questions, ben on avance. Quoi. On découvre son chemin en avançant, quoi. En
oui,
posant des questions.
Oui. Voilà. Et alors oui, c'est sorti totalement de ton imagination. Il n'y a pas dans ta carrière ou dans quelque chose qui peut rappeler ça.
Non, j'ai pas de... Bon, le lien que je peux faire avec ma carrière, c'est la réflexion sur la pensée, sur la psychologie, sur le pourquoi des choses, comment le passé peut avoir un lien avec le présent. Ça, c'est... Toute ma vie, je me suis interrogé là-dessus. C'était mon travail, quoi. Et puis, mais je pense que beaucoup de personnes s'interrogent sur leur passé, et puis ça éclaire l'avenir, quoi. Enfin, son propre avenir, quoi.
Quand on est éducateur, comme ça, ça demande beaucoup de réflexion, parce que c'est pas très simple, on est avec un public un peu spécial quand même, non?
Oui, c'est pas simple, il y a beaucoup de boulot compliqué, moi je trouve, hein. Et j'avais l'habitude de dire qu'il était pas plus compliqué qu'un autre, quoi.
Ouais. Oui, mais est-ce qu'on apprend des choses différentes parce qu'on est dans un public qu'on rencontre pas tous les jours?
Tout à fait, oui, ça, c'est ça, je suis d'accord. Oui, j'ai beaucoup appris, quoi. Comme un enseignant peut apprendre dans son école aussi.
Ouais.
Il y a des enfants qui jouent dans la
oui,
cour.
Voilà, c'est ça.
Je pense au travail des enseignants tout à l'heure.
Ouais.
Voilà, ils ont beaucoup à apprendre de leur métier, quoi. Mais chacun a à apprendre de son métier et chacun rencontre des difficultés inhérentes à chaque métier. Mais voilà, des métiers qu'on ne choisit pas par hasard, qui ont une résonance au fond de nous, quoi.
Et alors, tu parles de ces deux femmes que va rencontrer Raphaël. Elles ont un rôle important dans ce livre?
Oui, toutes les deux. Oui, elles ont un rôle important. Que je ne dévoilerai pas, mais, il va les observer. Et ces rencontres vont être déterminantes pour la suite, oui.
D'accord, oui. Il y a le grand-père, mais il y a quand même ces femmes qui vont... le faire basculer un peu.
Oui, et puis un enfant qui passe au milieu comme ça, qui traverse brièvement ses journées. Un petit, je disais comme un trait de lumière jaillissant de persiennes closes, quoi. Un gamin avec toute sa légèreté qui va le guider sur les chemins malgré lui, quoi. Parce que le gamin, lui, vit sa vie. Il vit. Mais voilà, il traverse un petit peu comme un elfe, comme un lutin. Et lui aussi va participer à ce que Raphaël retrouve davantage son chemin.
D'accord. Alors, Raphaël, là, il doit faire beaucoup d'efforts parce que c'est un changement de vie total quand même. Hein, là, c'est ce carnet là qu'il découvre. Son grand-père, comme tu dis, l'a très peu connu. Et son père, non, il ne lui avait jamais rien révélé.
Et voilà, justement, il va découvrir ça, que son père, qui savait, qui connaissait cette histoire de fuite, lui en a jamais parlé.
D'accord.
Et ça, c'est difficile à comprendre pour lui, mais... Son père, c'est une forme de fuite, d'avoir fui la parole, de ne pas avoir transmis cette partie de l'histoire qui était importante. Mais pour le père, elle était douloureuse. Alors, pour le petit-fils, elle peut l'être aussi, mais il y a quand même une génération qui est passée. C'était pas son père, c'était son grand-père. Et le père, il n'a pas pu. Hein. Mais peut-être que les pères sont moins bavards que les mères, ils transmettent beaucoup moins. Hein. Je pense que... Surtout les pères d'avant, mais même encore, hein, c'est pas...
Oui, les mères se confient plus, sont peut-être plus... Psychologie peut-être plus féminine.
Les femmes sont davantage dans le langage.
Voilà, c'est
ça,
ouais, c'est ce que t'as...
Moi, je pense que c'était vrai... Pour ma génération, les générations d'avant, c'est toujours un petit peu vrai, je trouve.
Oui.
Moins en moins, heureusement.
Oui, donc aujourd'hui, on parle du livre de Christian Vial, « Fuir les chemins perdus » aux éditions de Boré. Alors, ces chemins perdus, on ne va pas dire où ça va l'entraîner, mais ça va quand même l'entraîner assez loin, non?
Oui, ça va. Enfin, surtout dans le passé. Après, oui. On ne sait pas ce que va être le lendemain. Mais oui, ça l'entraîne très loin. Surtout, ça l'entraîne vers une histoire qu'il ne soupçonnait pas. Voilà.
Voilà, oui, c'est ça.
C'est une histoire insoupçonnée, mais en découvrant des histoires insoupçonnées, ben on découvre et ben ça illumine la vie, quoi. Parce que c'était quelque part au fond de lui, en fait. Parce que malgré le silence des parents ou des grands-parents, il y a toujours des petits cailloux qui sont semés, qui quand la lumière fait jour, enfin je veux dire, je m'exprime mal, quand on y voit un peu plus clair, voilà. On se dit oui, mais on le savait déjà, quoi.
Oui.
Voilà, c'est ça. En fait, il savait un petit peu ce qui avait pu se passer, mais sans le savoir vraiment.
Ah ben, c'est ce qui se passe souvent dans les familles, hein, quand même. C'est peut-être, ou même toujours, hein, parce que il y a des fois, bon, il y a des choses qui sont pas bonnes à dire, hein, il y en a qui sont bon, il y en a qui sont peut-être bonnes à dire, mais elles se disent pas parce que les gens ne savent pas.
Oui.
C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, hein. On voit bien, hein, à la campagne, des fois, il y a des gens qui sont fâchés entre eux, entre voisins, mais ils savent pas pourquoi.
Ils savent plus. Oui.
Parce que c'était il y a 40 ans, les grands-parents, les arrière-grands-parents qui s'étaient fâchés, voilà. Donc, et lui va peut-être retrouver un peu tout ça au travers de ses chemins perdus.
Oui, il va mieux comprendre son entourage, mieux comprendre sa mère notamment, son père aussi, il a un frère aussi qui voyage toujours dans les pays étrangers, qui est dans une forme de fuite lui aussi, quoi.
Ah, oui, tout le monde fuit là.
Voilà, mieux se comprendre soi, c'est mieux comprendre l'autre.
D'accord.
Ouais, c'est un petit peu
alors,
ce cheminement,
bah, si, bah, ça fait une bonne transition finalement, puisque ça nous permet d'être dans une région où on parle beaucoup de Compostelle,
oui.
Et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Bon, j'ai rencontré pas mal de... Bon, j'ai des copains qui l'ont fait, puis d'autres qui sont venus en parler, qui ont écrit des bouquins. Mais il y en a justement qui partent pour ça, pour avoir une réflexion, parce que tout le monde... Enfin, moi, tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit qu'il faut le faire tout seul.
Oui.
Ils me disent, si tu le fais tout seul, eh bien, tu marches, et puis il y a des choses qui reviennent. Et c'est un peu ça, quoi.
Oui. Écrire, c'est un peu marcher, en fait.
Voilà.
Je suis pas un grand marcheur.
Oui.
J'ai jamais fait les chemins de Saint-Jacques. Mais se retrouver seul avec soi-même, c'est un peu ce qu'on peut faire dans l'écriture, en fait.
D'accord. Ouais.
Laisser venir les pensées les plus profondes, celles qui sont en embuscade, qui viennent pas comme ça, mais si on laisse, si on regarde d'autres choses ou si on écrit d'autres mots, ça peut venir. Ça peut, voilà. Forme de ruissellement de la pensée souterraine. Mais oui, l'analogie avec les chemins de Saint-Jacques, j'aime bien, même si c'est pas du tout mon truc. Mais
on parle de Saint-Jacques, mais j'ai rencontré des gars qui marchaient beaucoup, d'ailleurs, parce qu'une fois, il y avait eu à côté, là, ils étaient venus justement, un groupe de Saint-Jacques de Compostelle. J'avais rencontré un gars qui avait. Oh, il a fait tous les chemins qu'on peut faire en Europe. Hein. Mmh. Et il disait qu'il avait un besoin, il partait pratiquement sans arrêt. Ouais, il avait ce besoin de se retrouver comme ça, seul. Il disait, je pense à autre chose, je rencontre des gens, j'apprends. Mais il faut marcher seul.
Mmh.
Voilà. Donc là, c'est un peu pareil. Lui, il fuit les chemins perdus, mais peut-être que les chemins perdus peuvent le rattraper aussi.
Oui, ben c'est ça. Voilà, oui, c'est bien. J'aime bien ton analyse et le rapprochement que tu fais. Là,
ouais. Donc, alors ce Raphaël, on n'a pas parlé. Il faisait quoi comme métier au départ ?
Il était enseignant.
Ah, il était enseignant,
d'accord.
Il était
enseignant, voilà.
Ouais.
Bon métier. Il n'était même pas fatigué de travailler avec des enfants. Ça peut arriver, des enseignants qui,
oui.
Pour lesquels c'est difficile, ont le besoin de changer, parce que c'est pas facile d'enseigner.
Hein. Oui, non.
C'est pas facile, mais c'est même pas ça. C'est beaucoup plus profond et diffus. Parce que, mais il ne le sait pas lui-même. Il ne le sait pas lui-même. Il sait juste une chose, il faut changer, il faut partir.
D'accord. Oui, donc voilà, oui, c'est ça. Voilà. Oui, il faut partir, il faut fuir.
Oui, voilà. Ah. J'ai créé une histoire à partir de ça.
Donc à partir de ça, donc en fait, tu racontes sa fuite.
Oui.
Voilà, donc alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette fuite,
ouais,
quoi.
Oui.
Hein, puisqu'on va découvrir, peut-être qu'on va découvrir Raphaël comme personne ne le connaissait.
On va le connaître différemment, oui, sûrement. Oui. Il est un autre, il est le même, et puis il est à la fois un autre, parce que après cette recherche, après ce regard sur son passé, il est un homme différent. Un homme différent.
Et célibataire ?
Il y a des histoires d'amour.
Oui, non, mais je veux dire, au départ...
Au départ, il était avec une compagne qu'il a laissée, parce que là aussi, ça se passait bien, mais ça se passait... ça se passait, voilà, mais sans passion, sans, voilà, avec c'était un peu attendu qu'il ait des enfants, tout ça, mais il en avait pas envie, il était un peu coincé dans sa famille, donc il est parti sur autre chose, et il a trouvé d'autres personnes.
D'accord, oui, ouais, donc voilà.
Il a trouvé d'autres personnes.
Oui, donc ce qui explique peut-être cela aussi un peu, parce que fuir les chemins perdus, il change déjà de compagne. Et est-ce qu'elle va l'aider aussi peut-être dans sa recherche?
Non, parce qu'il va complètement couper avec elle. On n'entend plus parler dans les...
On n'entend plus parler. Donc,
on n'entend plus parler.
D'accord.
Bon, pour elle, ça... ce qui est dit, c'est que ça n'a pas été évident pour elle, parce que elle n'a pas compris, mais personne n'a compris. Ses élèves n'ont pas compris, ses parents n'ont pas compris, ses amis n'ont pas compris pourquoi il interrompait et il partait.
D'accord.
Mais il n'était pas capable d'expliquer.
Il expliquait pas.
Il pouvait pas.
Il avait une force qui le poussait.
Voilà. Il ne pouvait pas expliquer parce qu'elle ne savait pas pourquoi.
D'accord. Donc c'est toute la trame du livre,
oui, voilà.
Fuir les chemins perdus. Christian Vial aux éditions de Boré. Il t'a fallu beaucoup de temps pour écrire ce livre?
Un an et demi, peut-être. Oui, à peu près un an et demi. Oui.
Ouais.
Ouais, j'ai pas compté, mais c'est à peu près ça. C'est ce qu'il me faut pour un manuscrit. Quoi. Il faut du temps. Hein, voilà.
Alors toi, t'écris le matin, le soir?
Plutôt l'après-midi.
Ouais.
Mais des fois, ça déborde. Quand je suis en plein dedans, ça prend beaucoup plus que l'après-midi, mais j'écris tranquillement, voilà, un peu chaque jour. Voilà,
Alors certains nous disent parfois, bon ben d'un coup il me vient une idée, pouf, je me mets à écrire. C'est ça un peu?
Non, je m'y mets régulièrement.
Ah d'accord.
Je m'installe et puis ça, si ça vient pas, je retravaille ce que j'écris, parce qu'il faut beaucoup relire, retravailler, reprendre, relire à voix haute. Et... Donc si l'idée du jour vient pas, je relis, je retravaille ce que j'ai fait avant. Il faut le faire absolument, ça.
Oui, puis la difficulté, c'est que, on écrit, mais des moments, on est bloqué, là. Il faut pas qu'au milieu du livre, le lecteur, il dise, bah, ça y est, j'ai compris. Voilà, il faut les emmener doucement à la fin.
Mais
et
oui.
Ça, c'est un peu compliqué, quand même.
Oui, c'est pas évident, parce que jusqu'à la fin, on ne sait pas si on va réussir à tout raccrocher.
Voilà.
Parce que moi, les idées, elles viennent. Hein, comme, voilà, elles viennent. Après, il faut rassembler. Et puis, il faut que c'est du sens pour moi et pour le lecteur.
D'accord.
Parce que ça fait deux, quoi, je veux dire.
Oui.
Moi, je m'y retrouve très bien avec mes personnages, mais il faut que j'explique suffisamment, que je leur donne un caractère, que l'action soit assez précise. Voilà. Mais c'est pas évident à lier. Et toujours, il y a cette question, est-ce que je vais réussir à faire le lien final et est-ce que le lecteur va s'y retrouver?
Voilà, c'est ça, oui, oui. Oui, bon, le lecteur, après...
Lecteurs, parce qu'il n'y a pas un lecteur.
Oui, oui, il n'y a pas... Puis, je pense que il y en a 10 qui vont lire le livre, il n'y en a pas un qui va avoir la même vue sur le livre, hein. Il y en a un qui va le voir d'une façon différente.
Oui,
c'est
oui,
comme
tout
quand
à fait.
On va au cinéma,
oui.
Et il y en a 10 qui voient le film, il y en a un qui a trouvé qu'il était bien, l'autre qui n'était pas bien, l'autre qui n'a pas compris ça. Là,
oui,
là
oui.
C'est un peu pareil.
Oui,
dans
oui.
La lecture... Puis il y en a qui ben ils partent dans leur imagination aussi, ça.
Oui, oui.
Des fois, ça donne... on imagine, comme l'auteur, ce qu'il a voulu écrire, tiens. Alors, ça permet d'imaginer, peut-être de se transposer à la place de l'auteur.
Voilà, mais c'est ce qui est intéressant, quoi. Quand je rencontre des lecteurs, quand j'ai des retours,
ouais.
C'est de voir là où chacun a pu accrocher ou retirer quelque chose, l'émotion que ça a pu susciter, le plaisir. Et c'est pas pareil, tu as raison, pour chaque lecteur. Quoi.
Oui, je crois que...
Oui. Alors, il y a des... oui, oui. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est un grand plaisir d'auteur de susciter des questionnements ou toucher l'émotion chez l'autre. Quoi.
Et donc, tu fais quelques salons du livre?
Oui, de temps en temps. Oui,
ouais.
Oui. Si, pour le moment c'était plutôt des dédicaces.
Oui, c'est des dédicaces
en
ce moment.
Mais des salons, oui, il y en a de prévus.
Oui, enfin, ou des dédicaces.
Et à Arsac en Velay notamment,
ah, bah
j'espère
oui.
J'ai été invité, donc j'ai répondu favorablement. Donc
ah oui, serai. là, puis, en plus c'est.
Oui, c'est un grand salon, un beau salon.
C'est une bonne fête du livre,
c'est
vraiment sympa.
Oui.
Moi je le fais depuis 20 ans, je crois que ça a 25 ans qu'il existe, je ne sais plus. À part une année où, comme l'année passée, il y a 2 ans, mais bon, et puis avec le Covid ça s'est un peu arrêté. Mais c'est vrai que c'est un salon du livre qui est bien. Parce qu'ils sont restés à taille humaine.
Oui.
Voilà. Je sais que j'avais parlé avec l'ancien président Bailly, et puis maintenant c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, la nouvelle présidente.
Oui,
mais
c'est une
présidente. Ouais. Ils auraient pu accueillir beaucoup plus de monde, mais il m'a dit non, on ne veut pas.
Non, il limite, c'est bien.
Ouais. Et finalement, c'est bien parce qu'il y a tous les styles déjà. Et puis je crois que l'auteur est bien en contact avec son public.
Oui.
Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est un peu comme un chanteur, il aime aller sur scène parce qu'il est avec son public. Ben un romancier, il aime rencontrer ses lecteurs pour avoir un peu en direct les réactions.
Tout à fait. C'est indispensable.
Alors, il faut pas fuir les... On peut fuir les chemins perdus, mais pas fuir les lecteurs. Hein.
Non, je ne fuis pas. C'est un plaisir de les rencontrer.
Alors, fuir les chemins perdus, donc Raphaël, ben, c'est le point d'interrogation. Oui, pourquoi il s'en va? Alors, il fait des allers-retours ou il part vraiment?
Non, il part vraiment.
Il part vraiment.
Il part vraiment. Mais il n'a pas coupé complètement. Il reste en contact avec ses amis.
Mais il n'enseigne plus.
Doucement. Non, il n'enseigne plus. Et on ne sait pas ce qu'il va faire. Il a quelques... Quand il est parti, il n'avait pas de piste. Enfin, c'est... On trouve ça dans les romans, hein, d'arrêter son perspective. Mais pas uniquement, hein, je pense. Il y en a certains arrêtent leur travail, c'est plus supportable. Et puis, ils prennent le temps de se poser pour retrouver autre chose. Quoi.
D'accord.
Donc là, non, il ne va pas couper complètement, mais il ne va pas reprendre contact tout de suite quand même.
Ouais,
besoin d'un certain temps.
Il a ressenti un besoin.
Oui.
Donc, d'être tout au long, suite, bien sûr, on le dit toujours, à cette découverte. Peut-être s'il n'avait jamais découvert ce carnet, il n'aurait pas changé sa vie. Quoi.
Voilà, oui. Et puis, à travers ce carnet, il va découvrir et son père et sa mère sous d'autres aspects.
D'accord.
D'autres révélations qui vont faire voir différemment son père et sa mère.
Oui, voilà. Bon, donc, c'est vraiment un changement total de vie. Hein. C'est,
oui.
Il y a quelque chose qui est passé dans sa tête et qui a dit bah, peut-être pourquoi j'ai une vie aussi linéaire. Hein.
Oui.
Il faut que je voie autre chose. Il faut que je fuis, en fait. Que je m'éloigne sans trop s'éloigner quand même. Hein. Il s'éloigne, mais.
Oui, mais on peut s'éloigner sans aller très loin. En fait.
Oui, voilà, c'est vrai.
Je pense qu'on peut faire une coupure à 20 ou 30 kilomètres.
Non, mais c'est vrai.
Il peut être à 12, 300 kilomètres des lieux un peu imaginaires. Enfin,
oui.
Ils existent dans la réalité. Il part à Lyon, notamment, et il vient du Bourbonnais, donc c'est pas très loin.
Oui,
mais,
ça se tient.
Mais c'est quand même une coupure. Et la coupure, on peut la faire dans une même ville. Hein, les gens,
oui, bien sûr.
La distance avec son entourage, 100 mètres, beaucoup de kilomètres.
Et cette fuite, alors bon, il faudra lire le livre pour savoir la fin,
oui.
Mais cette fuite, est-ce que ça va le révéler à lui-même?
Oui, ça laisse un espace. On sait qu'il ne sera plus le même, on sait qu'il va aller vers d'autres choses, mais on ne sait pas quoi. Après, chacun peut imaginer, quoi.
Voilà, c'est ça, oui.
Oui, voilà, on sait qu'il, lui, il part sur d'autres aventures, il part sur une autre vie, sans qu'elle soit définie... Je ne dis pas quel va être son métier.
Non, bien sûr. Oui.
Qu'importe, mais on sait que ça va être différent. On sait que le pas suivant est engagé. Quoi.
Oui, mais donc, sur la chute du livre, on apprend ou il faut imaginer ce qu'il va faire?
Non, ce qu'on apprend surtout, c'est cette énigme autour de son grand-père
voilà,
et sa grand-mère. C'est l'énigme principale,
d'accord,
en fait.
Hein. Oui.
Et là, il va avoir une résolution. Et d'avoir compris ça, lui, il va avoir comme un souffle intérieur, quelque chose qui se détend, une respiration, et il va pouvoir avancer. Il va
d'accord.
pouvoir avancer. Mais ça ne dit pas, lui, ce qu'il va devenir, on est certain qu'il n'est plus le même. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? Voilà, il va avancer.
Voilà, d'accord. Oui,
c'est le chemin qui est intéressant à décrire, en fait.
Voilà, c'est ça, oui.
Plus que la destination, parce que...
Oui, non, la destination, elle n'est pas importante. Hein. Lui, c'est ce changement qu'il a voulu faire absolument.
Mmh.
Et tout au long de, eh ben, de cette fuite en avant, hein, puis c'est un peu une fuite... Enfin, c'est les chemins perdus, parce que c'est antérieur à ce qu'il a, son grand-père c'était avant lui, donc, mais il fuit quand même les chemins, voilà, fuit les chemins, c'est bien le titre, hein, fuir les chemins perdus, hein, voilà, donc c'est bien ce que tu as essayé de retranscrire dans ton livre.
Voilà, oui.
Hein,
oui.
Donc, bon, bah écoute, t'as un peu des premiers retours quand même.
Ouais, il est sorti il n'y a pas longtemps, hein,
ouais,
début octobre, 10
ouais,
octobre.
Oui.
J'ai quelques premiers retours de. Oui, quelques. Voilà. Mais c'est trop tôt. Bah, c'est difficile de dire si ça va marcher ou pas.
Oui, non, mais c'est bien.
Mais les premiers retours sont intéressants.
Ton premier livre a été bien apprécié?
Je crois,
Le retour de grâce, oui.
Le jeu de grâce.
Pas pour le retour de grâce.
Bah, écoute, oui. J'ai eu des bons retours. Hein, c'est. Voilà, suffisamment pour me faire plaisir et me donner envie de continuer l'écriture.
Alors, j'aurais peut-être pu commencer par là, d'ailleurs. Oui. Comment t'es venu à l'écriture?
Comment je suis venu à l'écriture?
Enfin, c'est pas évident. Hein,
c'est pas évident. Mais on le sait jamais trop, ça. Enfin, dans mon travail, j'écrivais beaucoup,
ouais.
professionnellement. Des écrits, des bilans éducatifs, des bilans de synthèse pour des commissions éducatives, pour des juges. Et j'aimais beaucoup ce travail-là. C'était pas tout mon travail, mais c'était une grande partie de mon travail. Et j'étais donc dans l'écriture. Et quand j'ai cessé mon activité, ça fait 8 ans maintenant, J'ai pas arrêté mon travail, que j'aimais beaucoup, mais j'étais content de passer à autre chose. Et l'écriture m'a manqué.
D'accord.
Et naturellement, je me suis mis à écrire. C'est venu, voilà. Je me suis même pas posé la question. Voilà. Alors, ça vient peut-être encore un petit peu plus loin. J'ai eu la chance, quand j'étais au collège, donc ça remonte à pas mal d'années, à bénéficier de la pédagogie freinée. Alors, je sais pas, ça parle peut-être pas plus trop maintenant, mais c'est une pédagogie dans laquelle on faisait beaucoup de textes libres, de rédaction, on échangeait avec d'autres écoles. Et j'ai eu le plaisir d'écrire des textes qui ont été lus et appréciés. J'avais 13, 14 ans.
Ah oui, d'accord. Il y avait un petit quelque chose.
Il y a un petit déclic là qui était au fond de moi.
Ouais. Voilà. Ouais, puis qui s'est révélé que tu as été sorti de la vie professionnelle.
Voilà.
Alors, c'est vrai qu'on a plus de temps pour réfléchir. Et puis quand on aime écrire, pourquoi pas.
D'abord, j'aime lire.
T'es un gros lecteur.
Oui, on peut appeler. Oui, je lis beaucoup. Je suis avant tout un grand lecteur et un modeste écrivain.
Ah bah ça, on ne sait pas.
Oui, pour le moment.
Non, c'est déjà bien. Moi, je suis toujours assez impressionné par les écrivains qui viennent là, parce que il y en a, ils en sont à leur 20e livre. Je dis, mais attends, mais comment tu fais ou comment vous faites pour avoir toujours des idées? Parce que c'est sûr que t'écris un livre, deux livres, trois livres. Mais si au 10e, tu racontes toujours, enfin, pas toujours pareil, mais si tu es toujours un peu après les lecteurs slas, ben non, ils arrivent toujours à trouver des.
Et oui, j'aperçois sur ta bibliothèque le livre de Gérard Jor.
Ah oui.
Qui écrit beaucoup et qui se renouvelle sans cesse.
T'as Florence Roche.
Oui, Florence Roche aussi.
Albert,
bien sûr.
Mais c'est vrai, c'est pour ça.
Je connais toutes ces personnes-là. Ouais.
Moi, je suis toujours un peu impressionné parce que c'est pas évident. Surtout ceux qui servent des livres régulièrement. Bon, celui qui en fait un tous les 3-4 ans encore. Il y en a qui, toutes les années, c'est un nouveau livre.
Alors, je pense que ce sont tous des lecteurs, donc on engrange des idées, puis on regarde autour de soi, on écoute, et puis voilà, ça vient. C'est très proche de la lecture, l'écriture, en fait.
Oui.
C'est très proche. Y a pas, on peut passer facilement de l'un à l'autre, c'est mon avis. Hein. Mais pas forcément pour éditer des bouquins, mais pour écrire pour soi.
Non, mais il y en a qui écrivent pour écrire,
C'est vrai.
Des fois, ils disent, j'ai écrit des recueils, j'ai écrit des poèmes, parce que à un moment, j'ai envie d'écrire, mais. Et après, ça débouche des fois sur un livre, mais pas toujours.
Pas toujours.
Et donc, alors, ça, c'est la question traditionnelle de l'émission. Est-ce qu'il y en a un sous le coude ?
Oui. Écoute, j'ai deux manuscrits qui sont chez la maison d'édition, chez Deboré.
Ah, déjà, oui.
J'attendais, j'ai de bons espoirs, mais je ne peux pas me prononcer tant que.
C'est pas ce qu'on demande. Alors, on va changer complètement de sujet, là.
Je change de sujet, c'est plus fier. Mais on retrouve des thèmes communs, parce que je pense que quand on écrit, on brasse un peu dans les mêmes univers.
Ouais.
On brasse un petit peu qu'on tord un petit peu différemment, qu'on reprend avec d'autres personnes, d'autres lieux. Mais je pense que c'est différent quand même.
D'accord.
Et puis l'écriture évolue, et puis voilà. Mais je vais voir. J'attends les retours de la maison d'édition.
Il faut voir. Donc il y en aura deux à venir.
J'en ai deux qui sont terminés. Je vais voir ce que ça.
Oui, il faut voir ce que va dire Deboré, quoi.
C'est ça.
Qui édite pas mal de bouquins et d'auteurs du cru. Hein. C'est vrai que. Ils font.
Deboré, des bouquins de terroir, mais pas uniquement.
Il faut un gros.
Ils
font un gros travail sur les auteurs de la région, quoi. Déjà. Ce qui est intéressant, parce que ça permet de les faire découvrir. Hein.
Oui.
Mais c'est vrai que dans ce qu'on reçoit, c'est très. C'est très divers. Hein. Les auteurs se ressemblent pas du tout. Hein. Je veux dire, c'est le but un peu du jeu. Hein. Mais bon, c'est une maison d'édition. Enfin, nous, ça fait 20 ans, je crois, qu'on est en partenariat. Chaque fois qu'il y a des gens de la région qui sortent des livres, même un peu plus loin, hein, parce que des fois, mais qui ont trait à la région. Quoi. Je veux dire, il y a des écrivains qui écrivent de plus loin, mais qui sont sur la région. L'histoire est en relation avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, voilà. Donc, Fuir les chemins perdus, Christian Vial aux éditions Deboré, comme on dit, on le trouve dans toutes les bonnes librairies.
Voilà.
Puis peut-être, on approche des fêtes de Noël, ça peut être une idée de cadeau.
C'est une bonne idée.
Pour ceux qui lisent beaucoup. Voilà, oh, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les chemins perdus? On a dit un peu tout, on s'est pas trop perdu, j'espère.
Moi, pour ma part, non. Je te remercie, Jean-Pierre.
Non, mais c'était ça. Bah, moi, écoute, hein, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, nous, les radios associatives, on est là pour ça, parce que sinon, on sert pas à grand-chose. Hein. Mais c'est bien, on découvre des gens. Bah, tout à l'heure, là, j'étais avec des personnes, justement. On parlait un peu des 40 ans de la radio, mais je dis on apprend beaucoup parce qu'on découvre beaucoup de gens, on découvre beaucoup de personnes. Et c'est ce qui est intéressant. Ben c'est pareil pour les auteurs, on rencontre beaucoup d'auteurs qui écrivent des choses différentes, qui écrivent des fois un peu leur autobiographie au travers leurs histoires parce qu'ils ont vécu des choses, donc ils essayent de les transporter dans un bouquin. Et finalement, alors on disait que le livre allait un peu disparaître, ben, je crois que c'est tout à fait l'inverse, parce que on voit le nombre de livres qui sont édités, le nombre d'auteurs, rien que dans notre région, hein, je parle pas. Il y a beaucoup, et finalement, ils trouvent un lectorat quand même.
Oui, je le pense, sinon ils ne sortiraient pas tous ces livres.
Oui, ils ne sortiraient pas, oui, parce qu'il faut...
Ouais, c'est assez encourageant, oui.
Ouais.
J'espère que ça va continuer encore longtemps.
Voilà, mais bah écoute, si tu as deux manuscrits encore en cours de route, bah on attendra. Hein. Il y en a peut-être, si ça marche, un qui sortira l'année prochaine.
Théoriquement, oui.
Oui, si c'est bon, on aura l'occasion.
Si c'est bon, ça pourrait être l'année prochaine.
Oui, on a l'occasion d'en parler. Hein. Non, mais c'est sûr. Il n'y a rien de. On dit toujours ça, mais bon.
Et je reviendrai avec plaisir si tu m'invites.
Hein. Ah, ben bah, nous, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais écoute, si on a fait le tour, on va arrêter là. On va. Fuir les chemins perdus. Donc, je vous rappelle, Christian Vial, les éditions de Boré. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Christian Vial était notre invité du jeudi. On le remercie. Et puis, comme vous avez entendu, il a d'autres manuscrits sous le coude. Alors, on espère le retrouver bientôt.
Merci Jean-Pierre.
Merci
beaucoup Jean-Pierre.
Ben,
c'est un grand plaisir.
Merci. Non, moi aussi, c'était franchement un plaisir. Dans les fonds.
Près du grand saule, au milieu du jardin, comme à tes premiers jours, penché sur ton couffin. Quand je berçais tes rêves à la tombée du soir, j'essaie d'imaginer le cours de ton histoire. Les lignes de ta main, si j'étais ton chemin, je me ferais discret dans l'ombre de tes pas, pour t'aider à grandir et pour t'ouvrir la voie. Je serai la poussière qui s'envole à tes pieds, un peu de mon bonheur qui colle à tes souliers. Je t'aimerai au point de te lâcher la main, pour que tu sois le seul à choisir ton destin, à dessiner ta route en puisant au hasard les raisons d'espérer et la force d'y croire. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, je construirai des ponts, des tunnels, des ouvrages. J'ouvrirai des sentiers partout sur ton passage, pour que tu puisses aussi t'écarter quelquefois des pistes balisées qu'on a tracées pour toi. Je t'apprendrai les mots pour soigner les blessures, les signes éparpillés le long de l'aventure, pour te montrer le nord quand tu te crois perdu, le silence attendri de ceux qui ne sont plus, mais qui tiendraient ta main si j'étais ton chemin. J'irai cueillir ton rêve au plus fort de la nuit, le planter dans la terre et l'inonder de pluie, de lumière et d'amour au soleil de midi, pour que tu rêves encore chaque jour de ta vie. Je ne t'épargnerai ni le temps ni l'effort, pour que tu sois debout devant les coups du sort, solide et résistant face à l'adversité, riche de ton courage et de ta liberté. Et Je déposerai quelque part une pierre pour te laisser t'asseoir, offrir une prière à tous ceux dont l'histoire t'a mené jusque-là et pour ceux qui suivront la trace de tes pas. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, et nous serions semblables aux bulles de savon qui font la route ensemble et puis qui se défont dans le même courant, chacun de son côté, mais sans aucun désir au fond de s'éloigner. Puis je m'effacerai comme un sentier se perd, en refaisant parfois le chemin à l'envers. J'aurai le sentiment d'avoir rempli mon rôle et je m'endormirai à l'ombre du grand saule où je berçais sans fin le début de ta vie. Au-delà des bonheurs partagés en commun, saurais-je alors enfin si j'étais ton chemin.
Les gris d'hiver, les moissons d'août, je les connais, tous les virages et les détroits, les lacs gelés, les cœurs en croix, tous les chemins mènent à toi. Oh, tu sais, je connais les doutes, oui, j'ai aimé, toutes les sirènes nous déroutent pour essayer de nous faire perdre au moins le nord, à chacun son île au trésor. Chemins m'ont mené là. Des sillons tortueux ou droits, je me retrouve toujours en toi. Je me retrouve. Si la femme est un pays, c'est pourtant moi qui t'ai conquis. Oh, oh, tu sais, j'ai vu et j'ajoute. J'ai cherché la grande étoile sous la voûte. Je n'ai trouvé qu'un chemin triste et délicat, emmêlé au creux d'autres draps. J'ai tenté de m'enfuir sans foi. Des sillons tortueux ou droits, je me retrouve toujours en toi. Je me retrouve. Et si la femme est un pays, je me retrouve toujours.
notre chemin. Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins. On a pris d'autres chemins.
À quel moment tu prends ta décision et c'est quoi qui fait pencher la balance? Pourquoi tu prends telle ou telle direction, celle de tes doutes ou celle de tes croyances? Est-ce ton idée ou celle du paternel quand tu te décides à prendre cette voie? Celle de tes rêves ou des remords éternels? Alors cette fois c'est ton droit, c'est ton choix. Tu as décidé d'être un artiste, un choix subversif ou un choix tendance? Un mélange de confort et de prise de risque, une décision d'adulte, un rêve d'enfance? Un métier loin des modèles familiaux, est-ce une envie ou une envie de rébellion? Un métier loin des réveils matinaux, est-ce une fuite ou un vrai choix par passion? Tu as choisi la voie des marginaux, quitte à ce que l'entourage soit dérouté. La voie des atypiques, des originaux, tu marches en dehors des passages cloutés. Et si cette voie n'est pas des plus classiques, elle passe dans l'orage et sous les averses. Tu n'as pas écouté les mauvaises critiques, tu as choisi de prendre un chemin de traverse.
Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins. On a pris d'autres chemins. Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins. On a pris d'autres chemins.
T'as choisi un métier qu'on n'apprend pas au collège. T'as ouvert la porte aux envies qui se taisent. Persuadé que ton audace te protège, t'as décidé d'écrire ta propre hypothèse. Alors tu as pris un chemin de traverse, la voie des durs, la voie des courageux. La voie du pari, pas celle de la sagesse, mais peut-être aussi la voie des peureux. Peur de la routine d'une route sans relief, peur de trop d'années coincées dans les livres. Peur des horaires fixes d'un bureau ou d'un chef, peur d'avoir peur d'exister sans vivre. Un chemin de traverse est un raccourci, une voie parallèle, une route sans panneau. Un raccourci vers quoi? Vers tes envies, vers l'argent ou peut-être vers le chaos. Et si être artiste est un art de vivre, si tu ne réussis pas, c'est pas grave. C'est la beauté du geste qui nourrit et enivre, que tu chantes au zénith ou dans ta cave. Mais si ton art séduit et que les gens t'aiment, attention à l'ego qui te renverse. Si tu te sens enrôlé par le système, n'oublie pas que c'était juste un chemin de traverse.
Pour rêver.